Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer un scoop que vous allez découvrir. Il est rare que cette modeste émission fasse des promesses de ce genre, mais vous verrez, le scoop est d'intérêt. J'ai aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui Rocher Daché, historien de la franc-maçonnerie, pour évoquer le 24 juin 1717 et la création de la franc-maçonnerie moderne. Alors, vous devez vous demander, où y a-t-il un scoop dans cette affaire ? Le suspense est à son comble. Bonjour Rocher Daché.
Bonjour.
Rocher Daché, que s'est-il passé en juin 1717 ?
Eh bien, le 24 juin 1717, nous sommes à Londres, dans le quartier Saint-Paul, autour de la cathédrale Saint-Paul, qui a été entièrement rebâtie quelques années plus tôt sous la direction de Sir Christopher Wren, qui est le plus grand architecte anglais de l'époque. Et dans les rues qui sont autour de la cathédrale Saint-Paul, il y a une petite taverne. Cette taverne, comme il y en a des milliers à Londres, s'appelle Alois et le Grill, parce qu'au-dessus de la porte d'entrée, il y a un emblème qui permet de repérer la taverne de très loin, qui montre une oie qui va naturellement passer au grill. C'est une maison de bière, comme on dit, où on va boire, où on va chanter, où on va se retrouver entre amis, où on peut aussi banqueter. Et ce jour-là, il y a une influence particulière. On voit des hommes de tous âges qui convergent vers la taverne, qui montent au premier étage, et ils vont se réunir pour tenir une loge maçonnique. Il y en a déjà plusieurs à Londres, il y en a au moins quatre ce jour-là qui se réunissent, et ils vont décider une chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant, ils vont créer une grande loge. Et c'est pour cette raison que l'on considère que le 24 juin 1717, c'est d'une certaine manière l'anniversaire de la création d'une forme nouvelle de la franc-maçonnerie moderne.
Ce qu'on appelle la franc-maçonnerie moderne, spéculative parfois, et puis c'est la première obédience, à vrai dire.
Alors en fait, oui, parce que la franc-maçonnerie spéculative, comme vous venez de le souligner, elle existe d'une certaine manière avant. On sait qu'il existe au XVIIe siècle, en Écosse, des loges qui sont des loges liées à la profession, mais qui déjà à la fin du XVIIe et encore plus au début du XVIIIe comportent parmi leurs membres des gens qui n'appartiennent pas au métier du bâtiment. Donc même les loges en Écosse qu'on considère comme étant encore opératives ont déjà commencé à évoluer, deviennent quelque chose d'autre. Mais surtout, à Londres, en Angleterre, c'est très différent. On connaît pour tout le XVIIe siècle deux ou trois exemples de loges temporaires qui ont existé pendant quelques heures ou quelques mois ou quelques années et qui, parmi leurs membres, comptaient essentiellement des gens qui n'étaient pas du tout des maçons de métier. Pour autant, est-ce que c'était donc ce n'étaient plus des maçons opératifs. Mais pour autant, est-ce que c'était des loges spéculatives, c'est-à-dire est-ce que leur objet était de réfléchir, de bâtir, comme on dira plus tard, des cathédrales intellectuelles, c'est aller peut-être vite en besogne. Et d'ailleurs, dans les quatre loges qui vont se réunir à Londres, ce fameux 24 juin 1717, il n'y a pas d'intellectuel. En tout cas, en 1717, il ne semble pas qu'il y en ait. Ce sont essentiellement des petits artisans, des petits boutiquiers, des gens d'extraction plutôt modeste. Et c'est tellement vrai qu'ils vont placer à leur tête comme étant désormais le grand maître, ce qu'on va appeler pour la première fois le grand maître, un homme, Anthony Sayer, dont on sait d'ailleurs pas énormément de choses, sauf une, c'est que il était lui-même assez modeste. On pense qu'il était libraire et il était tellement de conditions modestes que bien des années après, il va rester grand maître un an, bien des années après, il demandera des secours financiers à la Grande Loge, qui entre-temps était devenue quelque chose d'important, et on lui accordera ces secours financiers en souvenir du fait qu'il avait été le premier grand maître.
Sait-on pourquoi s'engage ce processus nouveau ? Quelle signification peut-on donner à cet événement ?
Et c'est très difficile parce que les récits qui nous en sont parvenus à l'époque n'expliquent pas la raison de cette réunion, ou plutôt donnent quelques indices. On nous dit qu'à l'époque, en juin 1717, et donc depuis quelques années, il y a à Londres 4 loges. On a d'ailleurs d'autres documents qui laissent entendre qu'un peu plus tôt, il y en avait eu 6. Ce qui pourrait signifier que ces loges étaient très faibles et qu'elles commençaient à disparaître. Par conséquent, à l'époque, la principale activité des loges, c'est d'être en fait des sociétés d'assurance mutuelle. On est à une époque où il n'y a pas d'assurance sociale, où il n'y a pas de welfare state, comme il y en aura plus tard en Angleterre et ailleurs. Quand on travaille et qu'on tombe malade, ou qu'on a un accident, ou que le père de famille vient à mourir, ça peut être la détresse familiale profonde. Alors, depuis le Moyen-Âge, il y a des confréries qui consistent simplement, qui sont en fait la préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui les mutuelles. C'est-à-dire que quand tout le monde va bien, on met de l'argent dans une caisse commune, ce qu'on appelle en Angleterre, the common box à l'époque, la boîte commune. Et puis, évidemment, quand l'un des confrères, comme on dit, a une difficulté, on puise dans cette caisse. Eh bien, on s'aperçoit que l'activité majeure des loges, à ce moment-là, c'est justement d'assurer cette solidarité fraternelle. Et il se trouve que, apparemment, elles sont démunies, elles ont peu de moyens. Alors, elles ont cette idée simple qui consiste à dire, si on se réunit, 4 petites loges, ça fera quelque chose de plus volumineux. Comment pourrait-on l'appeler ? Tiens, on va l'appeler une grande loge.
Alors j'ai annoncé un scoop, et en insistant bien sur le fait que c'était une chose inhabituelle. Nous venons de parler, comme les historiens le font depuis longtemps, de ce 24 juin 1717, mais... peut-être pouvez-vous nous dire ce qui d'ailleurs se murmurait chez les historiens de la franc-maçonnerie concernant ce 24 juin 1717, Roger Daché.
Eh bien, le récit que je viens de vous faire, c'est celui qu'on trouve dans tous les bons dictionnaires ou dans tous les bons ouvrages d'histoire de la franc-maçonnerie. C'est celui que moi-même, qui travaille depuis plus de 30 ans sur ces questions, j'ai fait 50 fois. Seulement, voilà, nous savons aujourd'hui que c'est une légende dorée. Et que le 24 juin 1717, il ne s'est rien passé. C'est un événement qui a été créé de toutes pièces des années plus tard. Alors, comme vous le disiez à l'instant...
À ce point-là ?
Oui, et d'ailleurs, on s'en doutait depuis longtemps. Il y a d'abord un fait qui est très simple, et ça on l'a toujours souligné. Le seul récit que nous possédions de cet événement de 1717... C'est le récit qu'en a fait James Anderson, l'auteur, un des auteurs, en tout cas le principal rédacteur des constitutions qui vont être publiées en 1723, qui sont le texte fondateur des règlements de la franc-maçonnerie universelle. Eh bien, le seul récit donc que nous ayons de cet événement du 24 juin 1717, c'est le récit que fait Anderson dans la deuxième édition de ses constitutions en 1738, c'est-à-dire 21 ans plus tard. Et surtout, il n'était pas présent en 1717. C'est-à-dire que tout ce que nous savions de cet événement nous avait été rapporté 20 ans après par quelqu'un qui n'y avait pas participé. Et c'est d'autant plus frappant que quand on regarde la première édition du même auteur en 1723, il ne fait aucune mention de l'événement de 1717. Ce qui veut dire que ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que cet événement, l'idée de cet événement a été créée, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, probablement entre 1725 et 1730.
Donc la franc-maçonnerie moderne, non seulement c'est une tradition empruntée à la maçonnerie opérative et à l'histoire de différents courants de bâtisseurs, mais même l'acte fondateur, parce que de la même façon que vous, dans de nombreuses conférences, j'ai eu l'occasion d'évoquer juin 1717, c'est aussi un emprunt, une invention.
Oui, mais en même temps...
Mais ça ne retire rien à l'efficacité.
Voilà, exactement. Ça ne retire rien au sens profond de cet événement. C'est-à-dire qu'il faut considérer que le 24 juin 1717, c'est une date symbolique qui veut dire que probablement, en fait, à partir de 1721, quand on a élu le premier grand maître noble, qui est le duc de Montagu, l'oncle successeur prétendu d'Anthony Sayer, mais en fait probablement le vrai premier grand maître de la Grande Loge de Londres, la maçonnerie londonienne a commencé à changer de nature. On a dit tout à l'heure que c'était quatre petites loges avec des gens de très modeste extraction. Et voilà qu'ils placent à leur tête le duc de Montagu, qui est un familier du roi, qui est l'homme le plus riche d'Angleterre, et qui, comme par hasard, dans l'un de ses premiers actes, verse une somme considérable au fonds de solidarité de la Grande Loge. Ces loges qui, justement, cherchaient à posséder plus de moyens pour aider les confrères. Et tout ça ne se produit pas n'importe quand, bien sûr. Le duc de Montagu est un proche de la monarchie hanovrienne qui s'est établie en 1715. Et naturellement, il faut faire comprendre au petit peuple de Londres, qui a vécu à l'époque depuis 150 ans beaucoup de révolutions politiques, que la nouvelle dynastie et ses amis, comme le duc de Montagu, sont les amis du peuple de Londres.
Alors quel rôle joue la Royal Society dans cette maçonnerie moderne et même dans l'élection de Montagu ?
Eh bien,
il y a la personnalité des Aguliers et surtout d'Isaac Newton.
Voilà, et d'ailleurs le duc de Montagu est membre de la Royal Society et on s'aperçoit que lorsqu'il arrive à la grande maîtrise, donc probablement c'est le premier vrai grand maître, on va trouver dans d'une ou deux loges londoniennes ce qu'on n'y avait jamais trouvé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des wagons entiers, si on peut s'exprimer ainsi, de membres de la Royal Society, de savants, de philosophes, de militaires, de grands administrateurs, d'aristocrates, qui vont arriver dans les loges maçonniques, où on n'aurait jamais imaginé qu'ils arrivent, mais ils sont entraînés part à la suite du duc de Montagu, et l'agent recruteur a sans doute été Jean-Théophile des Aguliers, qui est un conférencier très connu et très respecté à l'époque, et qui est le premier collaborateur, tout simplement, d'Isaac Newton, qui est le président en exercice de la Royal Society.
Plus que des lumières, la franc-maçonnerie moderne est fille de la modernité, de cette modernité qui s'installe à partir du XVIe siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est un élément des lumières, mais que ses racines sont peut-être à chercher du côté de Descartes, de Spinoza, de Bacon, de Galilée.
En tout cas, c'est un phénomène complexe, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie moderne telle qu'elle va émerger au début du XVIIIe siècle est finalement la résultante d'une rencontre improbable, la rencontre d'une vieille organisation qui est une confrérie dont le principal objet est la solidarité fraternelle réservée au petit peuple, avec une élite sociale et intellectuelle qui trouve de l'intérêt à se joindre au petit peuple dans le cadre de l'institution maçonnique. Et cette élite sociale et intellectuelle, en effet, c'est une élite newtonienne, en ce sens que Jean-Théophile des Aguliers, qui est physicien, qui est aussi d'ailleurs ministre de l'Église d'Angleterre et chapelain du prince de Galles, s'intéresse à la philosophie politique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va rédiger un texte dans lequel il expose que le gouvernement idéal, c'est le système de Newton appliqué à la politique. C'est-à-dire non pas l'autocratie, le despotisme, la monarchie absolue, mais une espèce de système balancé, exactement comme Newton a montré que les planètes tournent autour du Soleil.
Il y a des forces qui s'équilibrent.
Mais exactement, par interaction réciproque. Et il dit, voilà, une bonne société doit être politiquement structurée, comme l'univers, tel que Newton nous l'a montré. Et on peut penser que, dans le projet de ces hommes-là, il y avait l'idée qu'en faisant la jonction avec le petit peuple, par l'intermédiaire de cette confrérie, on allait pouvoir, en quelque sorte, injecter cette pensée nouvelle dans l'ensemble du peuple anglais.
Parce que dès les premières constitutions, dites d'Anderson, mais qui ont été, semble-t-il, largement rédigées par Jean-Théophile des Aguliers, c'est à Anderson qu'on a confié la charge de retrouver les anciens devoirs et de d'élaborer l'histoire mythique de la franc-maçonnerie, il y a un projet qui est social et politique, très clairement.
En tout cas, en Angleterre, c'est très net, parce qu'il faut rappeler que l'Angleterre, pendant 150 ans, avait connu des guerres permanentes, politiques et religieuses, où tout le monde s'était étripé au nom de l'amour du Christ. Et nous avons là des hommes qui disent, eh bien, en fonction de ces mêmes principes, il faut maintenant que nous nous tolérions, que nous nous reconnaissions. Un moment important, c'est la glorieuse révolution de 1688, l'acte de tolérance de 1689, qui fait que maintenant, on a la liberté de choisir sa religion, c'est le premier point, et puis l'établissement du parlementarisme, qui est la première vraie monarchie parlementaire dans l'Europe moderne. Et d'une certaine manière, la structuration de la franc-maçonnerie, avec la rencontre de cette élite et du peuple, c'est une autre manifestation de la philosophie politique moderne qui finira, après beaucoup de difficultés, mais qui finira par submerger l'Europe.
Roger Daché, merci. C'est un plaisir que d'avoir des invités aussi érudits que vous. Vous avez plusieurs ouvrages ou contributions à des ouvrages en préparation. J'aurai l'occasion de les évoquer, de les citer. Et j'espère surtout que nous aurons l'occasion de poursuivre cet entretien en allant plus avant dans l'histoire de la maçonnerie et de voir comment cette franc-maçonnerie moderne spéculative, que nous fêterons quand même en 1717,
bien
et
sûr,
particulièrement au mois de juin, même s'il ne s'est rien passé, ce qui est très amusant, et donc de nous retrouver autour de ce thème. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'émission du Grand Orient de France, du moins en juillet, mais ce sera probablement la Grande Loge Féminine de France qui occupera cette antenne pour le premier dimanche du mois de juillet. Mais j'espère ardemment vous retrouver pour le premier dimanche du mois d'août, au cours de laquelle j'aurai l'occasion de discuter avec Pierre Mollier de l'état de la recherche aussi en histoire. Je ne sais pas s'il nous réservera de nouveaux scoops, c'est une habitude que j'aimerais prendre, même s'il faut utiliser ce terme avec distance et avec le sourire, à vrai dire. Toujours est-il que j'espère vous retrouver nombreux à cette occasion. Bon dimanche, à bientôt. Thank you.